Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous donnent leur vision du numérique dans l'art.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Vanessa Clairet, qui est directrice de la communication et du développement à la Galerie Perrotin, à Paris.
Bonjour Vanessa, vous êtes directrice communication et du développement à la Galerie Perrotin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors merci beaucoup pour cette invitation à participer à ce podcast sur la digitalisation de l'art. Donc, je m'appelle Vanessa Clairet, je dirige effectivement la communication globale de la galerie, c'est-à-dire que je coordonne un peu toutes les actions de communication de la galerie dans nos différents sites et aussi pour avoir une cohérence globale de notre image. Je fais ça depuis 5 ans aux côtés d'Emmanuel Perrotin et je m'occupe aussi donc, du développement, ce qui est un peu toutes les actions qui sortent du cadre proprement dit de la galerie, stricto sensu. Et qui permettent voilà, de tester, d'innover, d'aller sur des chemins où on nous attend un peu moins. La Galerie Perrotin a été fondée en 1990 par Emmanuel Perrotin, qui est un autodidacte en fait. Il avait travaillé dans d'autres galeries, mais il n'a pas forcément suivi une formation pour travailler dans le marché de l'art ou le marché tout court. Et c'est une force parce que du coup, il a vraiment abordé ce métier avec beaucoup d'énergie et d'envie et d'idées. Et il a développé en fait son travail au quotidien, au jour le jour en fait. Il a rencontré des artistes très tôt qui sont encore à la galerie aujourd'hui, Takashi Murakami en 93, Maurizio Cattelan à peu près dans les mêmes années. Et on a cette chance effectivement de représenter des artistes depuis longtemps qui vraiment font partie de l'aventure de la galerie. Donc la galerie porte le nom d'Emmanuel Perrotin, c'est son fondateur, ce sont ses choix d'artistes essentiellement, en tout cas pour les débuts. Par exemple, il y a Sophie Kahl, Bernard Fries, Jean-Michel Autoniel, Xavier Veillant, mais aussi Paola Pivi. Et depuis quelques années, Emmanuel a vraiment ouvert aussi cette sélection d'artistes à ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, on représente des artistes qui sont amenés, suggérés par des directeurs, des directrices de la galerie. On a un fonctionnement à la galerie qui est assez collectif. Collégial, Emmanuel accorde beaucoup d'importance aux idées de ses collaborateurs, ses collaboratrices. Et du coup, c'est vrai que le champ s'est ouvert et la typologie d'artistes, les générations, les nationalités. On représente aujourd'hui une cinquantaine d'artistes de plus de 20 nationalités différentes. Donc vraiment, on travaille avec des artistes du monde entier. On travaille aussi, on représente ce qu'on appelle des estates, donc des artistes décédés dont on représente les intérêts en lien avec les héritiers, la famille ou une fondation. Et puis après, on travaille avec une sélection d'artistes plus ponctuellement, de façon plus large. Et la galerie est basée dans 6 villes, Paris, New York, Hong Kong, Shanghai, Séoul et Tokyo.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la galerie s'inscrit dans le marché digital de l'art ?
Le digital, le numérique, les nouvelles technologies font vraiment partie de la galerie depuis sa création. En fait, c'est vraiment dans son ADN. Emmanuel, c'est ce qu'on peut appeler un geek. C'est quelqu'un qui, très tôt, commençait à coder, à créer des logiciels. Et en fait, très rapidement, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a aussi rencontré certains artistes, il a proposé en fait aux artistes de les aider à organiser leur travail, à mieux classifier leurs œuvres, à créer. Il avait créé ce qu'on appelle un catalogue raisonné, évolutif, qui permettait donc aux artistes de pouvoir déjà compiler et archiver leur travail, mais très très tôt, dans les années 80, fin 80, début 90. Et très vite, quand la galerie a ouvert, par exemple, Louise Weiss, c'était donc ce quartier avec de nouvelles galeries qui avait ouvert à Paris à peu près de façon simultanée. Il a proposé de mettre en commun des fichiers, des invitations. Il a développé également des logiciels qui pouvaient servir à différentes galeries. Et donc finalement, ces outils numériques étaient dès le départ constituants de l'aventure de la galerie. Ça n'a fait que se développer. Aujourd'hui, on a une dizaine de IT programmeurs en interne à la galerie qui, chaque jour, toujours travaille en fait à développer notre logiciel, s'appelle le manager, et qui en fait est un outil central dans le travail au quotidien de la galerie, que ce soit pour gérer les ventes, pour facturer, pour publier des choses sur notre site internet, pour alimenter des musées en images, pour collecter des banques de données, etc. C'est vraiment un logiciel aujourd'hui central qui ne fait qu'évoluer pour organiser aussi la programmation de la galerie. Déjà, cette dimension numérique est très présente, on va dire, dès le début, dans l'origine de la galerie. Et puis, évidemment, on a continué à se développer. Donc aujourd'hui, si on parle de digitalisation du marché ou même de la promotion d'artistes, puisque c'est aussi notre métier, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment des viewing rooms en ligne qui se sont notamment beaucoup développés depuis 2 ans avec la fermeture des galeries. Des ventes en ligne se faisaient déjà depuis longtemps, mais disons que ça s'est un peu accéléré. Et puis, bien entendu, les réseaux sociaux, toute la communication qui passe par ces médias-là est très importante. Et nous, on a toujours été à la galerie en recherche d'innovation. Après, ça peut aller jusqu'au domaine des œuvres elles-mêmes, parce qu'on a pu et on est aussi force de proposition et conseils auprès de nos artistes, par exemple en leur proposant de créer, comme Daniel Archam, un filtre avec Facebook, Snapchat, ou avec d'autres artistes à qui on a pu amener par exemple un projet de film en réalité virtuelle. On essaye aussi d'amener le maximum d'innovation et d'idées à nos artistes et de les accompagner quand eux-mêmes ont des idées de création en allant chercher des partenaires. Mais il est vrai qu'on reste très très prospectif à la galerie.
Merci beaucoup. Et en parlant de nouvelles technologies, qu'est-ce que vous pensez des NFT? Qu'est-ce que la galerie pense des NFT? Et comment vos artistes appréhendent la grosse bulle des NFT?
Les NFT, c'est effectivement un nouveau domaine très excitant, un nouveau canal, un nouveau médium, mais qui n'en est vraiment qu'à ses débuts en fait. Évidemment, les NFT ne sont pas du tout cantonnés au champ des arts visuels, mais en fait, ce qui est intéressant dans les NFT, c'est la porte qu'elles ouvrent vers une autre dimension, une autre fonctionnalité, une utilité qui là, pour le coup, ouvre des perspectives vraiment très intéressantes. Et par ailleurs, ce qui nous aussi nous intéresse, c'est que ça ouvre à de nouveaux publics, à une nouvelle audience. Et ça fait vraiment partie aussi de notre ADN. Malgré tout, les galeries sont des lieux qui sont ouverts au public gratuitement. Nous, on a vraiment à cœur à la galerie d'accueillir un public très vaste et très diversifié. On fait beaucoup d'actions en ce sens. Et d'ailleurs, on a beaucoup de visiteurs. Et donc, on est toujours preneur de nouvelles possibilités d'élargir les audiences. Et honnêtement, les NFT, tout ce marché et cette dimension digitale, c'est des nouveaux acteurs, mais c'est aussi des nouveaux amateurs, une nouvelle audience pour les artistes. Et des nouveaux artistes d'ailleurs.
En plus des NFT, on entend parler de plus en plus de métaverse. Et on a vu que la galerie Perrotin de Tokyo avait fait une immersion dans le jeu vidéo Animal Crossing. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Oui, alors c'est effectivement arrivé par nos équipes de Tokyo, mais je dois dire que c'est vraiment une action menée par la galerie Perrotin. Tout court, parce que du coup, à la base, l'initiative était de Ima, donc cette influenceuse virtuelle créée au Japon, qui avait déjà des centaines de milliers de followers, et qui avait été invitée par Nintendo, en fait, à créer un musée au sein de Animal Crossing. Et du coup, elle-même nous a invités, en tant que galerie Perrotin, à ouvrir une petite galerie, un petit espace d'exposition au sein de son musée. Et nous, on a adoré l'idée. En fait, on s'est dit, voilà, encore une occasion d'aller chercher un public différent ou en tout cas de proposer quelque chose. Alors, c'est vrai que c'était très particulier. Là, on est dans le domaine du jeu. Évidemment, on a été sollicité des artistes pour obtenir leur accord. Donc, ceux qui ont participé étaient évidemment très volontaires. Je dirais que c'était vraiment une première incartade dans ce domaine et voilà, le résultat était sympathique, c'était quelques œuvres, mais ça ouvre effectivement pas mal d'idées, c'est des très très belles perspectives et on était contents de cette invitation, on était même assez honorés, je dois dire.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de cette expérience et des résultats?
On peut dire qu'en termes de communication, c'était positif. On a eu plein de retours. Les gens nous ont dit « mais c'est génial que vous soyez là ». La galerie Perrotin est toujours là où on l'attend pas. On n'y est pas allé avec une idée préconçue. En fait, on avait envie de tester et on était plutôt curieux.
Du coup, comme on est dans le sujet des métaverses, Est-ce que la galerie Perrotin Paris a un projet similaire? Et la deuxième question, c'est et globalement, que pensez-vous du métaverse?
Vaste question. Non, c'est encore une fois, c'est des sujets qui nous passionnent pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. De manière générale, toutes les innovations du Web 3.0, pas uniquement ni les métaverses ni les NFT. Tout ça nous intéresse beaucoup.
Pouvez-vous nous parler de votre exposition que vous avez fait en fin d'année 2021 en Total VR?
Oui, alors c'était un projet qu'on a mené avec Atlas 5, qui est un studio de production de films VR français mais reconnu internationalement avec de très très belles productions. Et qu'on a rencontré via l'intermédiaire de Sabrina Bakis, qui est une commissaire d'exposition, et qui nous a en fait proposé d'imaginer un projet avec eux. Donc c'était encore une fois un projet un peu test, un peu pilote, où on avait envie de proposer un lieu de diffusion de films VR. C'est des films en fait qu'on n'avait pas produits ou dans lesquels nos artistes n'étaient pas impliqués. On a vraiment là agi comme un lieu de diffusion, où on a créé une plateforme, il y avait un lieu qui était accessible sur réservation, et donc il y avait une série de films qui étaient présentés à cette occasion-là. On fonctionnait en fait comme un lieu de diffusion de films, comme il peut y avoir plus classiquement. Et on a eu pas mal de presse, du public qui est venu. C'est vrai que ça a encore une fois beaucoup surpris. Et nous, ça nous intéresse dans l'absolu, les retours qu'on peut avoir sur cette technologie. On a eu un public très très varié qui est venu assister à ces séances. Et ça nous a aussi mis un peu un pied dans le sujet des films VR. On a notamment un artiste qui travaille aujourd'hui sur un projet de film en VR, un film d'artiste pour le coup. Donc on est très content de ça.
Du coup, vous allez vers la VR. Est-ce qu'il y a d'autres formats d'art digital, d'affichage digital? Des tableaux, des vidéos, tout ce qui est format digital, enfin format non conventionnel?
Alors, il y a deux choses. Certains des artistes qu'on représente s'intéressent à des formes digitales d'art, donc que ce soit des vidéos ou d'autres types de formats un peu plus nouveaux. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, nous, on les accompagne. Quelquefois, on va même jusqu'à les aider à trouver la technologie pour les accompagner dans ces projets ou les aider à les produire. Et puis, il y a des artistes également digitaux de nature, d'origine, qui nous intéressent et avec qui on a des projets d'exposition qui ne sont pas encore confirmés à ce jour, donc je ne peux pas forcément vous en parler, et avec lesquels on envisage de travailler, avec lesquels on a des projets d'exposition. Donc oui, absolument. Disons qu'on considère toujours le travail artistique pour sa qualité intrinsèque. La forme suit, c'est-à-dire que si c'est un artiste brillantissime qui fait de la peinture ou qui fait de l'art digital ou des projections ou du gaming, finalement c'est une déclinaison de sa pensée et de sa pratique. Nous, initialement, on défend les artistes et on essaye de faire de notre mieux pour les accompagner et les aider à développer leurs projets.
Alors, nous sommes un podcast et vous avez lancé il y a quelques temps votre propre podcast, L'amour de l'art. Comment est né ce projet?
C'est un projet qu'on avait depuis longtemps. Je suis contente parce que c'est vraiment un projet que je porte personnellement. J'avais très envie qu'on puisse donner la parole à nos artistes d'une façon peut-être un peu différente, puisque c'est vrai qu'on réalise beaucoup de contenu autour des expositions de nos artistes eux-mêmes. Donc on les filme dans leurs expositions, dans leurs ateliers, on les fait parler. Et en fait, ce podcast trouve un biais peut-être un peu plus personnel parce que du coup, comme son titre l'indique, on demande aux artistes de nous parler d'un artiste qu'ils aiment, d'une artiste qu'ils aiment, que ce soit dans le champ de la musique, du cinéma, de la littérature ou des arts visuels. Et du coup, c'est dans des termes assez personnel qui nous parle de cette pratique, et en creux ils nous parlent évidemment de leur propre pratique. Donc c'est un format assez court d'une dizaine de minutes et ça va nous permettre comme ça d'explorer à la fois des œuvres d'artistes qu'on ne connaît pas forcément ou avec lesquels on ne travaille pas, et évidemment de faire mieux connaître aussi le travail des artistes avec lesquels on travaille. Et le titre vient du livre éponyme de Pierre Bourdieu, L'amour de l'art, et c'est vrai que c'est pour le coup un un engagement qui nous parle, puisqu'encore une fois, Bourdieu, ce qu'il disait, c'est que finalement, il n'y a pas de prérequis pour aimer l'art. Il faut simplement en avoir quelquefois les clés ou avoir des éléments pour mieux le comprendre. Mais il n'y a pas de limite finalement, ni de barrière à se mettre pour apprécier l'art. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup.
Ça fait aussi écho à un projet que j'ai trouvé intéressant aussi, qui sont les playlists en fait, que vous faites de vos artistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, ça fait partie des projets pour le coup qu'on avait développés un peu plus en 2020, au moment où la galerie avait dû fermer, les galeries, parce qu'on s'est retrouvés effectivement à des moments où toutes nos galeries étaient fermées. Et donc on avait développé ce programme, on peut dire, qui s'appelait Perrotin Unlocked, donc en réaction au lockdown. Et c'était toute une variété de contenus qu'on pouvait proposer à notre communauté, on peut le dire, personnes qui suivent la galerie sur les différents réseaux ou qui viennent visiter nos expositions pour rester connectées à l'art, à la création. On savait que c'était quelque chose de très important en cette période. Et du coup, effectivement, beaucoup de nos artistes sont, comme tout le monde, s'intéressent à d'autres champs que les arts visuels et notamment à la musique. Et donc, ça nous intéressait de leur demander leur playlist idéale. Ça a aussi été développé dans le champ du film, ce qu'on avait développé Perrotin Screenings, où du coup, c'était des films soit d'artistes, soit recommandés par des artistes. Ça faisait partie des initiatives digitales développées à cette période et qu'on continue de faire.
On va parler des réseaux sociaux. Alors, c'est un vaste sujet, mais comment organisez-vous ou imaginez-vous les réseaux sociaux pour la galerie Perrotin ?
Alors déjà, c'est aujourd'hui effectivement un canal très complémentaire de communication, à côté des relations presse plus classiques ou de la promotion qu'on fait du travail d'artiste. Finalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une part réelle et importante dans la communication, la promotion du travail des artistes et des expositions. Donc en fait, on les intègre dès le départ dans la réflexion et ça permet une grande flexibilité aussi puisque on peut poster des contenus de préparation avant les expositions ou de visites d'ateliers, mais aussi faire des lives avec nos artistes ou des takeovers, ça on l'a fait aussi beaucoup. Donc on essaye de rendre le plus visible la création en train de se faire parce qu'on a la chance de travailler avec beaucoup d'artistes vivants et donc de permettre aussi de mieux comprendre le travail. Tout cela avec des contenus somme toute variés qui sont gérés par différentes personnes à la galerie, pas uniquement basées à Paris, puisqu'on a fait le choix d'avoir une page Instagram globale pour toutes nos galeries et qui reflète l'entièreté de notre activité. Aujourd'hui, on doit être à 560 000 followers, donc c'est une grosse communauté, mais qui justement est basée dans le monde entier. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis on a un canal un peu particulier, on a un compte aussi pour Perrotin Store, puisque la galerie a toute une activité très importante d'édition, de production d'objets, donc aussi de librairie pour les diffuser. Donc on a un compte Instagram dédié à cette activité. Mais on n'est pas uniquement sur Instagram, on est aussi sur Twitter, sur Pinterest, parce que c'est un canal qui est intéressant pour les arts visuels. TikTok, on fait quelques essais, on fait quelques projets, c'est pas encore ultra développé. Et on reste évidemment ouvert sur beaucoup d'autres canaux, YouTube, LinkedIn, etc.
Je pense d'ailleurs, YouTube, vous avez fait une belle collaboration avec Jonathan Lambert, il me semble.
Oui, absolument. On a lancé cette web-série qui s'appelait 4 minutes 17, parce que les épisodes duraient 4 minutes 17, et 5 minutes 17 depuis septembre, puisque la saison 2 a une minute de plus par épisode. C'est un projet qu'on aime beaucoup. C'est Jonathan Lambert qui nous l'a proposé au moment, en 2020, au moment du premier confinement. Et il avait envie depuis très longtemps, il rêvait de faire une série sur l'actualité de l'art. Lui-même est un grand amateur d'art et ça se sait pas forcément. D'ailleurs, il s'y connaît vraiment bien, il écrit chaque épisode lui-même. Et ça a été conçu dès le départ comme une web-série sur l'actualité de l'art, mais avec une dimension aussi récréative, si je peux dire, et en tout cas ouverte pour le grand public. Donc il y a vraiment, on a des publics très variés, même des enfants qui suivent cette web-série. Et ça fait partie de nos actions pour promouvoir le travail de nos artistes, puisqu'au sein de chaque épisode, on parle d'une exposition de la galerie ou d'un artiste de la galerie, mais également de projets partout en France, dans des musées, etc. Et finalement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on se cantonne pas forcément aux canaux traditionnels pour promouvoir l'art et nos artistes. Il faut un peu pousser les portes. Et c'est intéressant d'expérimenter. C'est aussi cette chance qu'on a à la galerie. C'est vraiment lié à la personnalité d'Emmanuel Perrotin, qui, très tôt, a été pour des collaborations qui ne semblaient pas forcément habituelles à l'époque, par exemple entre des artistes et des marques de luxe, ou d'organiser des fêtes ou des concerts pour des vernissages. C'était des choses qui cassaient un petit peu aussi les règles d'un milieu qui était très traditionnel et qui aujourd'hui, je pense, ont fait école.
Quels outils vous utilisez ? Est-ce qu'il y a une équipe marketing qui est dédiée à ça ?
Non, on n'a pas d'équipe marketing. On est vraiment, alors pour le coup, un service communication assez étoffé, particulièrement à Paris, avec différents métiers, puisqu'on a internalisé beaucoup de missions, que ce soit des vidéastes, graphistes, photographes, digital managers, attachés de presse. On a également des équipes basées dans notre galerie de New York, dans nos galeries en Asie. On n'a pas aujourd'hui des outils de mesure particuliers pour calibrer tel ou tel domaine, mais ça nous intéresse, encore une fois, d'ouvrir à des cibles et des audiences variées.
Dernière question, est-ce que vous avez un artiste que vous aimeriez nous faire découvrir ?
Un seul ?
Vous pouvez nous en citer quelques-uns, évidemment.
D'accord. Bah, peut-être je parle de l'artiste qui est exposé en ce moment à Paris.
D'accord.
Puisque du coup, c'est une exposition qui est visible jusqu'au 12 mars. Alors, c'est vrai que ça date peut-être un peu le podcast. Donc, c'est l'artiste Lee Bae, qui est un artiste coréen basé en France, entre la France et la Corée, et qui travaille à partir de la matière première du charbon. Pas uniquement, mais en tout cas, c'est sa matière de prédilection et qui travaille des formes très minimales, très épurées, à la fois délicates comme de l'encre, comme des peintures, mais aussi très monumentales comme des sculptures qu'on peut voir actuellement à la galerie. Et c'est un artiste qui a beaucoup exposé dans le monde entier et qui rencontre un grand succès actuellement et qu'on peut voir à Paris. Et je dois dire qu'il y a une grande communauté d'amateurs du travail de Lee Bae actuellement qui vient visiter son exposition à la galerie.
Bah écoutez, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Voilà, l'épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.